Bonjour Vincent Message.
Bonjour.
Nous parlons de romancier pluraliste. On va chercher dans un premier temps à caractériser ce que peut être un roman pluraliste. On pourrait commencer par cet apport que vous proposez. Les romans pluralistes opposent une réaction vitaliste à une crise.
Oui, tout à fait. C'est des romans qui partent d'évolutions socio-historiques majeures, comme celles qui ouvrent nos sociétés vers plus de modernité ou qui les jettent progressivement dans la mondialisation et qui cherchent à réagir au désarroi que ça peut susciter à l'échelle des sociétés comme à l'échelle d'individus qui ne savent plus exactement à quel repère se fier, à quelle valeur. Au lieu simplement de déplorer ces crises ou d'en faire le constat, ce sont des romans qui cherchent à voir quelle attitude on peut adopter à partir de ce moment-là pour mettre la pensée en fait à la hauteur des défis nouveaux que la modernité lui pose.
Et donc le vitalisme.
Le vitalisme, c'est une tonalité qui est très perceptible dans les œuvres. De Musil à Glissant, de Rushdie à Fuentes, c'est des romans qui ne sont pas dans la mélancolie, ne sont pas dans la nostalgie du monde d'hier, mais au contraire empreints d'un ton de grand appétit pour le monde, d'ouverture à la diversité, de célébration de ce que la diversité nouvelle qu'apporte la modernité peut nous apporter.
Vous citez Robert Musil qui écrit Inventer l'homme intérieur.
Oui, il dit inventer l'homme intérieur, inventer toujours de nouvelles solutions, de nouveaux prototypes d'action. La grande idée de Musil, c'est que notre pensée n'est pas encore à la hauteur, en fait. Est-ce que s'il y a un malaise dans la société européenne de son époque, des années 20-30, c'est parce que on n'a pas encore les moyens intellectuels, les moyens moraux de faire face à la modernité technique qui caractérise cette époque.
Il y a même Glissant, Édouard Glissant, qui écrit que nous commençons tout juste à comprendre les mouvements inouïs de la mondialisation.
Oui, et de ce point de vue, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans le déclinisme. Moi, c'est une des choses qui m'a intéressé chez eux. C'est que là où certains phénomènes liés à la mondialisation sont vus comme une perte d'identité et comme un danger pour un collectif politique, eh bien, chez eux, au contraire, on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire et il faut se battre pour l'écrire de la bonne manière, c'est-à-dire, pour ce qui est de la mondialisation chez Glissant, la soustraire à la violence coloniale, impérialiste, et essayer d'en faire autre chose.
D'où une réaction vitaliste à une crise.
Tout à fait.
Deuxième point pour caractériser les romans pluralistes, les romans pluralistes se construisent loin de tout impératif réaliste.
En ça, c'est aussi une réaction au roman du réaliste du 19e plutôt. C'est lié au fait que pour ces romanciers, être réaliste, c'est créer des mondes fictifs qui soient dans une espèce de répétition ou de redondance par rapport au réel. Et ça les intéresse moins parce qu'ils ont l'impression que le réel est connu, que ce qu'il faut, c'est plutôt apporter de la distance ou de la hauteur de vue. Et du coup, prenant le large, prenant cette distance, ils vont raconter le réel politique et social, mais un peu en dessous. Voir les grands mouvements en fait qui le structurent plutôt que l'actualité par exemple politique. Donc quand ils sont politiques c'est en un sens profond, pas en un sens superficiel. Et ça vaut aussi évidemment pour leurs personnages qui ne sont plus les personnages crédibles en trois dimensions avec beaucoup d'attributs du roman flaubertien, balzacien, etc. mais qui sont plutôt des figures dont on saisit la trajectoire de manière fragmentaire et dont l'identité est sans cesse remise en question.
Vous écrivez aussi que Fuentes et Pynchon, par exemple, pour prendre leur cas, prennent des libertés considérables avec l'histoire.
Oui, alors les deux romans dont je parle, Terra Nostra de Carlos Fuentes et L'arc-en-ciel de la gravité de Pynchon, se focalisent sur des périodes historiques précises. La découverte du Nouveau Monde et l'Espagne des Habsbourg d'un côté chez Fuentes et la fin de la Seconde Guerre mondiale de l'autre. Mais c'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre Chez Fuentes, par exemple, ce n'est pas Christophe Colomb qui découvre le Nouveau Monde, c'est une conquête de l'Amérique qui se fait, une découverte de l'Amérique qui se fait par des sujets hors pouvoir, qui ne sont pas mandatés par les rois d'Espagne.
Par presque des petites gens.
Oui, d'une certaine manière, par des individus, effectivement, qui n'ont participe pas à la puissance. Et de l'autre, chez Pynchon, également parce qu'il s'intéresse à des individus hors pouvoir, la Seconde Guerre mondiale n'est pas celle de Yalta ou des événements les plus massifs et les plus connus, mais celle des rivalités technologiques entre les différentes puissances, d'épisodes un peu oubliés ou périphériques par rapport à ce qu'on connaît traditionnellement du conflit. Et pour eux, c'est une manière de montrer que l'histoire aurait pu aussi tourner autrement, en fait.
Troisième caractérisation de romans pluralistes, les romans pluralistes aspirent à la mondialité.
Alors, il y a deux groupes de ce point de vue. Musil est un petit peu à partir d'une génération précédente, donc ça se passe à Vienne, L'homme sans qualité. Cela dit, il nous est dit aussitôt qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce lieu et que, Vienne est juste un laboratoire de la modernité et qu'on aurait pu prendre une autre grande métropole occidentale pour décrire les mêmes choses qui intéressent Musil. Chez le pluralisme, il s'impose après 45, y compris dans le vocabulaire. Un pluri se met à devenir un préfixe très productif et valorisé, alors qu'auparavant, le pluriel, c'est plutôt maléfique, diabolique, c'est quelque chose qu'on rejette. Les romanciers donc de ces générations plutôt postmodernistes des années 70, 80, 90, eux sont pris dans des trajectoires de vie d'abord qui les mondialisent de fait, des migrations, des déplacements, et s'intéressent évidemment à ces aspects-là parce que ce qui fait du pluralisme un fait indépassable de notre réel politique et sociale, c'est bien la mondialisation et le fait que les frontières sont ouvertes, qu'on ne peut plus se contenter de concevoir l'identité dans un territoire clos.
Alors, il y avait le cas d'Edouard Glissant, qu'on n'a pas forcément vu au départ comme étant quelqu'un qui aspirait à la mondialité, qui était mondialiste, mais plutôt quelqu'un qui nous parlait de créolité, par exemple, alors que c'était absolument pas le propos de son œuvre était de s'ouvrir au monde.
Oui, c'est une trajectoire qu'il a eue, ou peut-être un certain nombre de mauvaises appréhensions de sa pensée qu'il a été amené à dissiper. Son œuvre, elle part d'abord d'une réflexion sur l'identité antillaise, puisqu'il est martiniquais, mais en fait, par cercle concentrique, il en est assez vite venu à voir cet ensemble comme pris dans celui plus vaste des Caraïbes et du monde des métissages entre Afrique et Amérique, qui s'étend aussi à l'Amérique à l'œuvre de Faulkner ou celle de Toni Morrison. À partir des années 80-90, ce qui le préoccupe, c'est beaucoup plus les mouvements de la mondialisation culturelle. Donc il passe de ce qu'on peut appeler la créolité, qui est une espèce de pendant de ce qu'est la négritude chez Senghor en Afrique, à l'étude à la fois fictive et dans ses essais de processus de créolisation. La créolisation, c'est quand deux entités culturelles qui n'avaient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre se rencontrent, génèrent un tiers, un élément tiers qui est inédit, qui n'était pas forcément attendu, comme donc par exemple l'ont été les langues créoles, ou comme l'est le jazz, ou comme l'est le baroque latino-américain. Mais c'est un processus qui ne s'arrête pas, qui ne se stabilise pas, qui est toujours en mouvement. Et pour Glissant, c'est le monde entier qui est en train de se créoliser. Donc c'est pas seulement quelque chose qui concernerait les zones de métissage intense ou les zones où les langues créoles jouent un rôle.
Oui, il y a eu un malentendu sur Glissant. Quatrième caractéristique, les romans pluralistes sont des romans maximalistes.
Maximalistes, c'est-à-dire que ça se voit déjà par la taille de ces œuvres. C'est des œuvres amples, importantes, qui s'occupent de galeries de personnages, pas d'un seul individu, qui cherchent à rendre compte d'un monde qui est plein, qui est excessif. Donc, de ce point de vue, ils sont en rapport avec une sensibilité qui est plutôt une sensibilité baroque, qui appartient au monde culturel de gens comme Glissant ou Fuentes. Ils sont dans la lignée d'un roman qui, si on remonte à la refondation du genre, à la Renaissance, est le roman Cervantin et Rabelaisien. Et donc on y retrouve la même énergie et le même sens de l'excès.
Oui, parce que vous écrivez que c'est un monde, dans ces romans, c'est un monde plein et excessif. C'est le sens de
mais qui n'est
l'excès.
pas seulement une manière de voir le monde, ça correspond souvent au type de réel qui est représenté. Par exemple, Fuentes, quand il rencontre d'une ville tentaculaire comme Mexico, et dont en fait le devenir dépasse toutes les prévisions, ou Rushdie, quand il parle de l'Inde, il dit que l'Inde est un pays qui est too much, hein, il y a toujours trop, dont l'image la plus caractéristique, c'est celle de la foule, qui est hétérogène, qui est surabondante. Et ben en fait, ce qui peut paraître être des exagérations quand on parle de ces pays-là, en réalité, s'avère plutôt être des litotes, tant le réel ne cesse de dépasser la fiction et les projections qu'on peut faire sur lui. Et c'est pour ça que le maximalisme esthétique leur paraît être une solution plus viable pour rendre compte de telles réalités qu'une esthétique épurée, minimale.
Une autre caractéristique, les romans pluralistes sont des romans spéculatifs.
Spéculatif parce qu'ils mettent en jeu des savoirs. Les romanciers dont je parle conçoivent le roman comme un des lieux d'une connaissance du monde, comme l'un des vecteurs ou des véhicules d'une connaissance du monde. Au lieu de contourner les discours de savoir, comme le font d'autres romans qui se focalisent plutôt sur la sphère de la vie commune, du privé, des sentiments, etc., eux cherchent à inclure différentes versions du monde, parmi ces versions du monde, y compris celles que nous apportent l'histoire, la philosophie, la science. Et tous ces discours de savoir sont compliqués à gérer pour le genre romanesque, parce qu'ils ne sont pas spontanément littéraires, mais par un certain nombre d'opérations narratives, les romanciers essayent de les faire participer aux univers fictifs qu'ils mettent en place. Pynchon met en scène des scientifiques. Fuentes se sert beaucoup du travail d'historien sur l'Espagne du XVIe siècle et la découverte de l'Amérique pour construire son roman. Ces savoirs sont intégrés à l'œuvre, ils sont partiellement transformés, partiellement laissés tels quels. Et donc, ce sont des romans qui ne sont pas didactiques au sens où certains romans du XIXe, le roman de Zola, etc., est didactique, mais qui mettent en scène en tout cas des entreprises de savoir. C'est pour ça que je parle de romans spéculatifs, c'est-à-dire où les individus eux-mêmes cherchent à en savoir plus sur le monde qui les entoure, et aussi se confrontent à une croissance exponentielle des savoirs qui fait qu'ils ne peuvent plus non plus maîtriser vraiment cet environnement.
Et vous écrivez, il ne vise pas à nous transmettre des connaissances, mais plutôt à rendre compte de la place considérable qu'occupent les discours de savoir dans nos sociétés.
Voilà, parce qu'on vit dans des sociétés différenciées, avec des sphères professionnelles qui ont chacune leur langage, leur technicité. Et là, il s'agit de romanciers qui voient là-dedans un apport. Alors après, ils le modulent de manière très différente les uns des autres. Mais Musil ou Pynchon, par exemple, sont des gens qui avaient des formations d'ingénieurs, de scientifiques, et qui considéraient qu'il fallait aussi que le roman se confronte à ce type de pratique-là.
Et puis dernière caractéristique, on l'a bien compris, ce sont des romans d'une ambition extrême.
Oui, et du coup des romans qui posent des défis de lecture. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai souhaité construire une théorie du roman à partir de ces œuvres-là aussi, parce que je pense que ce sont des œuvres qui, du coup, ont besoin qu'on en fasse la théorie, qu'on donne des points d'entrée dans ces œuvres pour que les lecteurs sachent les raisons pour lesquelles on s'y perd, mais aussi les manières dont on peut s'y retrouver. C'est des romans qui peuvent être à première vue un peu intimidants. Qu'on a tendance à réserver pour des phases de longues vacances ou la retraite, etc. Et moi, l'idée, c'était aussi de faire un pas en arrière, de prendre de la distance, de voir comment ils sont structurés de manière générale et dans quel projet esthétique et politique à la fois ils s'inscrivent pour m'en faire le passeur.
Oui, vous avez même cité la célèbre phrase d'Italo Calvino, la littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre.
Donc, c'est des romanciers qui préfèrent tenter des choses, expérimenter, quitte à échouer ou à échouer mieux, comme c'est une formule qu'employait aussi Beckett à propos de la littérature, échouer mieux, plutôt que de s'atteler à des entreprises plus faciles, plus commodes, réalisables, mais qui changent moins notre regard sur le monde.
Alors, vous insistez aussi sur le fait qu'il y a un dialogue avec les philosophies pluralistes. Là, on s'inscrit dans un paysage plus théorique, plus philosophique, dans le monde des idées, des concepts. Ça pourrait commencer ainsi. William James, le fondateur, donc, enfin, un des fondateurs du pragmatisme américain, dans les années 1880, qui diffuse les termes contraires de pluralisme et de monisme. Vous écrivez: la vision du monde pluraliste de William James qu'il défend à travers la construction d'une méthode pragmatiste, se veut d'abord une réaction à la domination du monisme qui cherche à faire courir une seule loi à travers la diversité du réel.
William James, c'est effectivement un moment de refondation du pluralisme, qui chez lui est d'abord quelque chose de métaphysique, qui consiste à dire, donc, à l'opposition du monisme, que pour expliquer le réel, on ne peut pas le faire entrer dans un système de pensée, qu'il faut combiner, articuler différentes manières de le voir, différentes approches de connaissances, et il faut donc, même si ça paraît plus modeste, entre guillemets, comme entreprise, moins audacieux, que celui d'une unification du réel par la connaissance, William James pense que c'est cette voie-là qui est la plus fructueuse. Et en cela, en fait, il me paraît proche de ce que vont ensuite développer ces romanciers, qui sont des romanciers qui tous, à un titre ou à un autre, s'opposent aux pensées de système, c'est-à-dire aux grandes tentatives, qu'elles soient philosophiques ou scientifiques, d'exposer le réel d'un seul tenant ou en le subsumant sous une seule loi. Ce que j'ai cherché à faire dans cet essai, c'est de montrer en fait qu'il y a des parentés entre un certain nombre de philosophes qui sont donc réunis par cette arborescence qu'on appelle le pragmatisme et qui, après une longue éclipse, commence à susciter beaucoup, beaucoup d'intérêt depuis une quinzaine, vingtaine d'années en France, et un certain nombre de romanciers qui ne sont pas forcément des lecteurs de ces philosophes, n'ont pas forcément de rapport de fait avec ces philosophes, mais arrivent par des cheminements qui peuvent être différents à des propositions voisines avec les armes de la fiction littéraire. Et donc il y a une espèce de voisinage qui me paraissait intéressant d'explorer de ce point de vue entre littérature et philosophie, qui toutes deux sont bien qualifiées pour penser ce que c'est qu'un monde pluraliste. La philosophie, à partir du moment où justement elle renonce au système, donc William James et ses successeurs, et puis la littérature parce que le roman est un genre qui s'est toujours fait une spécialité d'accueillir le divers, d'être une espèce d'auberge espagnole où chacun apporte une identité différente, un discours différent. Et du coup, théoriser le roman à partir justement de cette notion de diversité me paraissait quelque chose d'intéressant.
Est-ce que ces auteurs-là, votre corpus Vincent Message pour les romanciers pluralistes, ces auteurs-là, donc Robert Musil, Carlos Fuentes, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, Edouard Glissant, s'ils n'étaient pas forcément lecteurs des auteurs et des philosophes de l'école pragmatiste américaine, est-ce qu'ils baignaient en tout cas dans une sorte d'éther intellectuel qui favorisait ce type d'idées pour leur création?
C'est probable, oui, pour certains. Il y a quelques rapports qu'on... Alors, on en sait plus ou moins sur eux, et puis moi mon intérêt n'était pas tellement de me pencher sur leur biographie ou sur leur trajectoire en tant que créateur et intellectuel. Mais par exemple, on sait qu'Edouard Glissant se sent assez proche de la philosophie de Deleuze et Guattari, que le roman que j'étudie, Tout le monde, est d'ailleurs dédié à Guattari, et il y vient... sans doute à travers aussi les leçons de quelqu'un qui s'appelle Jean Val, qui a été à la fois le professeur de Deleuze et de Glissant, et qui a introduit en fait William James et les pluralistes en France à partir des années 1920. Donc voilà, ça c'est par exemple une trace de lecture. Je pense que l'œuvre de Pynchon est aussi une œuvre qui est vraiment en dialogue avec celle de Deleuze et Guattari, parce que les héros de Pynchon sont souvent des gens qui sont lancés dans des quêtes, qui sont dans un nomadisme, qui s'opposent à la construction sédentaire d'une société, d'un projet de vie, qui s'opposent aux appareils d'État. Ils baignent là où le milieu, l'éther dont vous parlez, dans lequel ils baignent, c'est plutôt celui d'une contre-culture des années 60-70, hein, qui imprègne l'œuvre de Fuentes, l'œuvre de Deleuze, l'œuvre de Pynchon, et qui les réunit.
Pour revenir à cette philosophie pluraliste, pour la caractériser, vous employez quelques termes, notamment le terme de complétude. Non seulement l'esprit pluraliste n'attache pas d'importance à la complétude, écrivez-vous, mais il se méfie du prix qu'il a fallu payer pour l'atteindre. Mmh. Et puis vous employez aussi ce terme d'anti-essentialiste. Je vous cite à nouveau, « Les pluralistes sont des anti-essentialistes. Ils ne croient pas que les individus réels soient des copies plus ou moins abouties d'une essence idéale. Il ne croit pas à l'être, mais seulement au devenir. Et c'est à partir de là qu'il y a des situations, des événements qui arrivent à des personnages dans ces romans pluralistes.
Les personnages sont effectivement vus comme des identités toujours en devenir, c'est-à-dire, alors on évolue tous, simple. L'être c'est une manière de fixer le passage en fait, du temps et nos évolutions, donc c'est une manière de les oublier, de ne pas les apercevoir parce qu'elles sont trop lentes, parce qu'elles se produisent à bas bruit, etc. Là, dans les romans dont il s'agit, effectivement, les personnages, ce caractère en devenir qu'ils ont est exagéré parfois jusqu'à la métamorphose. On a beaucoup de héros qui soit changent d'identité progressivement, parce que par exemple, ils sont des migrants, ils arrivent dans une société différente à laquelle ils doivent s'adapter. Parfois, c'est des métamorphoses qui sont littérales, qui tiennent de quelque chose de plus fantastique. Dans les versets sataniques de Rushdie, par exemple, il y a justement des acteurs indiens qui sont déjà habitués à changer d'identité, qui se métamorphosent en ange et en diable, et qui, du coup, sont désocialisés dans l'Angleterre dans laquelle ils vivent et doivent recommencer le difficile processus d'intégration. Et en fait, s'interroger sur les métamorphoses de l'identité pour les romanciers, c'est une manière de montrer à quel point on n'est pas réductible à une catégorie, on n'est pas réductible à un certain nombre de qualités, on est sans qualité au sens de Musil, c'est-à-dire on peut toujours se détacher de ce qui nous caractérise, ça ne caractérise pas notre essence, c'est quelque chose c'est ce qu'on a, mais dont on peut aussi se dégager. Même si ce dégagement il n'est pas forcément facile. Hein. Et d'ailleurs, en ça, je trouve que c'est une philosophie qui est propice à l'action, qui est porteuse d'espoir, parce que il y a bien sûr le poids des déterminismes, et les romanciers l'ignorent absolument pas, mais ils attachent plus d'importance probablement à cette capacité d'y échapper, de dégagement, aux tentatives d'émancipation que peuvent mener les personnages.
Et puis, dernier point que je voulais aborder concernant la philosophie pluraliste à nouveau, quelque chose qui la caractérise également, je vous cite à nouveau. Attentif au surgissement imprévisible du nouveau et soucieux de décrire, sans la dépasser, la réalité concrète de l'expérience humaine, les pluralistes défendent une vision antifinaliste et indéterministe de l'histoire. Là, ça va intéresser aussi les romanciers, forcément.
Tout à fait. En fait, bon, là, c'est un peu héritier du combat donc mené à partir de la fin du 19e contre les philosophies de l'idéalisme allemand, par exemple celle de Hegel notamment, qui voit l'histoire comme un processus qui peut parvenir à un moment donné à son terme. En réalité, au XXe siècle, les idéologies qui s'inspirent de ces idées de la fin de l'histoire mènent souvent à des catastrophes. Quand on pense qu'on peut faire advenir une société sans classe avec le communisme, ou une communauté de destin unifiée avec l'Allemagne nazie, d'un peuple qui se serait vidé, purifié de toute altérité, c'est généralement des combats qui passent par la violence, et même une violence extrême. Il faut donc au contraire, pour ces romanciers et ces penseurs pluralistes, montrer à quel point l'avenir est ouvert. L'avenir n'est pas déjà présent, il ne va pas simplement surgir du présent, mais il est modifiable, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de terme prévisible. Il est modifiable localement, petit bout par petit bout, effort par effort, combat par combat.
Vincent Message, vous êtes également écrivain. On se souvient qu'en 2009, vous avez fait paraître Les Veilleurs, un épais roman très ambitieux, que j'avais beaucoup apprécié, notamment par sa belle ambition. Où en êtes-vous de votre travail fictionnel? Comment cette théorie-là, des romanciers pluralistes, nourrit votre œuvre à venir?
Elle s'est construite déjà en parallèle avec de premiers travaux littéraires, donc comme effectivement Les Veilleurs. Ce qu'il articule au roman Les Veilleurs, c'est que dans Les Veilleurs, ça mettait en scène plusieurs niveaux de réalité. C'est un roman qui se passait à la fois dans une grande ville occidentale et dans les rêves d'un meurtrier. Ces rêves l'amenaient dans un monde un peu différent du nôtre, et c'était donc une sorte de dialogue entre deux mondes. Donc on retrouve là quelque chose qui peut être cher aussi à certains des romanciers dont je parle, ce dialogue entre les mondes. Aujourd'hui, je travaille un roman assez différent, plus réaliste pour le coup, qui va se passer dans le monde de la grande entreprise Et ce qui peut-être continue à m'inspirer dans les auteurs dont je parle, dont je me fais le passeur dans cet essai, c'est cette idée de ne pas reculer devant les discours de savoir, c'est quelque chose qu'on a évoqué, dont le roman, pour rester un outil de connaissance du réel, doit aussi se confronter à des discours, comme le discours de l'économie, comme le discours de la finance, etc., pour les mettre en scène de manière réaliste, également aussi peut-être pour prendre de la distance, s'en moquer, les déconstruire, voir quel impact ils ont sur... comment ils emplissent nos têtes, quel impact ils ont sur nos identités individuelles, etc. Et donc montrer dans un lieu comme l'entreprise les différents points de vue, en cherchant à éviter du coup le manichéisme qui peut parfois être lié à la représentation de ce genre d'univers, en montrant comment chacun a ses raisons, comment chacun y subit des contraintes, est quelque chose qui m'intéresse et qui s'inscrit dans le prolongement de cette réflexion.
Merci beaucoup, Vincent Messonnier.
Merci à vous.